Chapitre 6. La forteresse de Cronos se profilait à l'extrémité orientale de la grande chaîne bridée, tel un immense et sinistre amoncellement baroque de pierres suintantes, abritant 300 salles et chambres, véritable dédale de corridors obscurs conduisant à d'autres salles souterraines, donjons, tourelles, balcons en encorbellement donnant sur les terres marécageuses du nord, puits d'aération s'élevant sur 500 mètres vers la lumière, et réputé plonger jusqu'au labyrinthe planétaire lui-même, parapets balayés par les vents glacés descendus des sommets environnants, escaliers, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, taillés à même la roche et ne conduisant nulle part, vitraux de 100 mètres de haut disposés de manière à capter les premiers rayons du solstice ou ceux de la lune une nuit d'hiver, lucarnes sans carreaux pas plus grosses que le poing, ne donnant sur rien de particulier, bas-reliefs sans fin, sculptures grotesques dans des niches à moitié dissimulées, gargouilles par centaines dans les cintres et sur les corniches supérieures, au regard braqué sur les grandes salles du bas ou bien placées dans le transept et au-dessus des sépulcres de manière à percer des yeux les grands vitraux couleur de sang de la façade septentrionale, leurs ailes et leurs ombres bossues se déplaçant comme les heures d'un cadran solaire sinistre, projetées le jour par la lumière du soleil et la nuit par des torchères à gaz. Et partout, dans Cronos, il y avait des signes de la longue occupation par l'église Grichtek. Les autels d'expiation étaient drapés de velours rouge. Les statues de l'avatar, isolées ou suspendues, avaient pour piquant de l'acier polychrome et pour yeux des cristaux de sang. D'autres statues du Gritch étaient sculptées dans les parois de pierre de cages d'escaliers étroites et de salles toujours sombres, de sorte que nulle part, la nuit, on ne pouvait être affranchi de la peur de frôler une main sortant de la pierre, ou la courbe effilée d'une lame descendant de la voûte, ou encore quatre bras en train de se refermer dans une étreinte ultime. Comme pour donner la touche finale à l'ornementation, ou pour graver un filigrane de sang dans les chambres et les salons naguère pleins de vie, des arabesques rouges s'étalaient en motifs presque reconnaissables sur les murs et les plafonds des galeries, la literie était caillée par des taches de rouille qui se résorbaient en poussière, et l'une des salles à manger centrales était emplie d'une écœurante odeur de nourriture pourrie, vestige d'un repas interrompu des semaines plus tôt. Tables et chaises, sol et murs, étaient barbouillés de sang. Vêtements souillés et robes en lambeaux gisaient en tas tels des témoins muets. Et partout, le bourdonnement des mouches.
« Foutu endroit pour faire la bringue, vous ne trouvez pas ?»
demanda Martin Silenus d'une voix qui résonna quelque temps sur la pierre. Le père Hoyt fit quelques pas dans le grand hall. La lumière de l'après-midi tombait en colonnes de poussière irisée à partir d'une verrière située 40 mètres plus haut.
« C'est incroyable » murmura-t-il. « Saint-Pierre du Nouveau Vatican, ce n'est rien à côté de ça !»
Martin Silenus éclata de rire. Une épaisse lumière faisait ressortir ses pommettes et ses sourcils de satyre.
Cet endroit a été construit pour abriter une divinité vivante, murmura-t-il.
Fenman Kassad posa son sac de voyage à terre et se racla la gorge.
Je pense que ces lieux sont antérieurs à l'église Grichtek, dit-il.
C'est exact, répliqua le consul. Mais il y a 200 ans qu'elle les occupe.
Ils n'ont pas l'air d'être habités en ce moment,
fit Brown Lamia qui tenait l'automatique de son père dans sa main gauche. Ils avaient tous crié à tue-tête pendant les 20 premières minutes de leur arrivée à la forteresse, mais l'écho amenuisé et le bourdonnement des mouches dans la salle à manger les avaient finalement réduits au silence.
« Ce sont les androïdes et les clones esclaves de Billy le Triste qui ont construit ce putain d'endroit !»
déclara le poète.
« 8 années locales de dur labeur avant l'arrivée des vaisseaux de Spin. » C'était censé être le plus grand établissement touristique du Retz, le point de départ pour les excursions dans les tombeaux du temps et la cité des poètes. Mais je suppose que même ces pauvres cloches de travailleurs androïdes connaissaient la version locale de l'histoire du Gritch.
Sol Weintraub était debout devant une fenêtre donnant à l'est. Il tenait sa fille assez haut pour que la lumière irisée tombe sur la joue et les petits poings potelés du bébé.
Tout cela importe très peu à présent, dit-il. Trouvons un coin à peu près libre de carnage où nous puissions dîner ce soir et dormir tranquillement.
Nous n'y allons pas aujourd'hui ?
Demanda Brown Lamia.
Au tombeau ?
fit Silenus, manifestant une surprise sincère pour la première fois depuis le début du voyage.
« Vous partiriez à la rencontre du Gritch dans le noir ?»
Elle haussa les épaules.
« Quelle différence ?»
Le consul se tenait près d'une porte vitrail qui donnait sur un petit balcon de pierre. Il ferma les yeux. Il avait encore la sensation que le sol tanguait sous lui comme dans le téléphérique. La nuit et la journée de voyage au-dessus des pics se mélangeaient dans son esprit, recrue d'une fatigue consécutive à près de 3 jours sans sommeil, sous une tension croissante. Il se força à rouvrir les yeux pour ne pas s'endormir debout.
« Je crois que nous sommes tous épuisés, » dit-il.
« Il vaut mieux passer la nuit ici et y aller demain matin. »
Le père Hoyt était sorti sur le balcon. Il se pencha sur le muret de pierres ébréchées qui servait de balustrade.
« Est-ce qu'on aperçoit les tombeaux d'ici ? »
demanda-t-il.
« Non, »
lui répondit Silenus.
« Ils sont derrière cette ligne de collines. Mais vous voyez ces trucs blancs au nord, légèrement sur la gauche ? Ces trucs qui brillent comme des éclats de dents brisées plantés dans le sable. »«
Oui. »
« C'est la cité des poètes, le site original choisi par le roi Billy pour Keats et pour toutes les choses de lumière et de beauté. D'après les indigènes, il n'y a plus là que des fantômes sans tête. »«
Êtes-vous l'un d'entre eux ?»
lui demanda Lamia. Martin Silenus se tourna pour lui dire quelque chose, considéra quelques secondes le pistolet qu'elle tenait toujours à la main, secoua la tête et se détourna. Des pas résonnèrent dans une courbe cachée de l'escalier, et le colonel Cassad reparut dans la salle.
« Il y a 2 petites pièces qui servent de réserve juste au-dessus de la salle à manger, » dit-il. « Elles ont un balcon commun qui donne sur cette façade, mais pas d'autre accès que cet escalier. Facile à défendre. Et les murs sont propres. »
Silenus se mit à rire.
« Cela veut-il dire que rien ne pourra nous atteindre ?» Ou bien que lorsque quelque chose nous atteindra, nous n'aurons aucune issue pour nous enfuir.
Où irions-nous ? Demanda Sol Weintraub.
Où irions-nous, en effet ?
Reconnut le consul. Il semblait très fatigué. Il prit son sac d'une main et, de l'autre, l'une des poignées du pesant cube de Mobius, attendant que le père Hoyt prenne l'autre.
Faisons ce que dit Cassad. « Allons passer la nuit dans une autre pièce. Celle-ci pue la mort. »
Ils dînèrent de leur dernière ration déshydratée. Silenus sortit son ultime bouteille et Sol Weintraub une poignée de gâteaux rance qu'il avait gardé pour fêter leur dernière soirée ensemble. Rachel était trop petite pour manger un gâteau, mais elle but son biberon jusqu'au bout et s'endormit sur le ventre à proximité de son père. Lennart Hoyt sortit de son sac une minuscule balalaïka. Il se mit à gratter quelques accords.
« Je ne savais pas que vous étiez musicien, »
lui dit Brown Lamia.
« Modeste amateur. »
Le consul se frotta les yeux.
« J'aimerais bien que nous ayons un piano. »« Vous en avez un ?»
lui dit Silenus. Le consul se tourna vers le poète.
« Pourquoi ne pas le faire venir ici ?»
fit Martin Silenus.
« Un bon scotch, ce ne serait pas de refus. »«
Mais de quoi parlez-vous ? »
demanda le père Hoyt.
« Exprimez-vous clairement si cela a un sens. »«
Son vaisseau !»
déclara Silenus.
« Vous ne vous rappelez pas ce que disait notre chère et regrettée voix de la jungle, Et Mastine, à son ami le consul ?» Au sujet de son arme secrète à lui, ce superbe vaisseau particulier appartenant à l'hégémonie qui l'attend tranquillement au port spatial de Keats. Pourquoi ne pas le faire venir ici, consul ? Vous n'avez qu'un seul geste à faire.
Cassad s'écarta des marches d'escalier où il venait d'installer des photos déclencheurs d'alarme.
L'infosphère planétaire est morte, dit-il. Les satcoms sont hors d'usage. Les vaisseaux de la force en orbite communiquent sur faisceaux serrés. Comment voudriez-vous qu'ils le fassent venir ?
Un méga-transmetteur.
C'était Lamia qui venait de parler. Le consul se tourna vers elle.
Les méga-transmetteurs sont de la taille d'un immeuble, murmura Cassad.
Brown Lamia haussa les épaules.
Ce qu'a dit Mastine avait pourtant un sens. Si j'étais le consul, si j'étais en fait à la place de n'importe lequel des quelques milliers d'individus dans tout ce foutu Retz qui ont la chance de posséder un vaisseau particulier, je prendrais mes précautions pour être bien sûr de pouvoir le faire décoller à distance en cas de pépin. Cette planète est trop primitive pour que l'on compte sur son réseau télécom. L'ionosphère est trop ténue pour les ondes courtes. Les satcoms sont toujours les premiers détruits en cas de conflit. Je choisirai le Mégatrans.
Que faites-vous de la taille ? Demanda le consul. Brand Lamia lui rendit son regard sans sourciller.
L'hégémonie n'est pas encore en mesure de construire des équipements Mégatrans miniaturisés, mais on dit que les extros y sont parvenus.
Le consul sourit. On entendit quelque part un grincement, puis un choc métallique. « Ne bougez surtout pas !» ordonna Cassade. Il sortit de sa tunique un bâton de la mort, désactiva les photodéclencheurs avec son persoc et disparut dans la cage d'escalier.
« Les hostilités sont ouvertes, j'en ai bien l'impression !» murmura Silenus. « Nous sommes tous sous l'ascendant de la planète Mars. Taisez-vous !»
fit sèchement Lamia.
« Vous croyez que c'est le Gritch ?» demanda le père Hoyt.
Le consul écarta les bras.
« Le Gritch n'a pas besoin de faire tout ce bruit. Il peut apparaître où il veut. »
Hoyt secoua la tête.
« Je voulais parler de l'état de ces lieux, l'absence de toute occupation de la forteresse, les signes de massacre. »
« Il y a eu un ordre d'évacuation générale, » fit le consul. « Personne ne tient à rester ici pour affronter les extros quand ils arriveront. Les FT ont été prises de panique. Elles sont peut-être à l'origine d'une partie de ce carnage. »«
Et tous les corps ?»
ironisa Martin Silenus.
« Vous prenez peut-être vos désirs pour des réalités. Il y a des chances pour que nos hôtes absents soient plutôt en train de se balancer à une branche d'acier de son arbre. » Où nous nous retrouverons d'ailleurs prochainement, sans aucun doute.
« Taisez-vous !»
répéta Lamia avec lassitude.
« Et si je refuse ?»
fit le poète avec un grand sourire.
« Est-ce que vous me descendrez froidement, madame ?»«
Oui. »
Le silence qui s'établit dura jusqu'au retour du colonel Cassade. Il réactiva le déclencheur d'alarme et se tourna vers le groupe assis sur des caisses et des cubes de mousse levée.
C'était une fausse alerte. Quelques oiseaux charognards. Je crois que les indigènes les appellent des augures. Ils sont entrés par les vitres cassées pour finir les restes du repas.
« Des augures !»
fit Silenus en gloussant.
« Très approprié comme nom !»
Cassade soupira et s'assit sur une couverture, le dos contre une caisse. Il remua sa ration refroidie. L'unique lanterne qu'ils avaient apportée du chariot avant n'éclairait qu'une partie de la pièce, et les ombres progressaient le long des murs et vers le plafond, aux angles opposés à ceux du balcon.
« C'est notre dernière soirée ensemble, »
fit-il en se tournant vers le consul. « Il nous reste un récit à entendre. » Le consul tenait à la main le bout de papier en tortillon sur lequel était tracé le chiffre 7. Il s'humecta les lèvres.
« À quoi bon ? Le but de ce pèlerinage nous est déjà inaccessible. »
Un murmure s'éleva.
« Expliquez-vous ? »
demanda le père Hoyt. Le consul jeta le bout de papier dans un coin.
« Pour que le Gritch accorde un vœu à des pèlerins, leur groupe doit former un nombre premier. » Nous étions 7, mais la disparition de Mastine nous réduit à 6. Nous allons à la mort sans le moindre espoir que notre vœu soit exaucé.
Simple superstition, fit Lamia.
Le consul soupira et se massa le front.
Je sais. Mais c'était notre dernier espoir.
Le père Hoyt désigna le bébé endormi.
Est-ce que Rachel ne pourrait pas faire la 7e ?
Sol Weintraub se lissa la barbe.
« Non.
Un pèlerin doit se présenter devant les tombeaux de son propre chef. »
« Mais c'est bien ce qu'elle a fait dans le passé, » dit Hoyt.
Est-ce que cela ne suffit pas à la rendre qualifiée ?
Non,
rétorqua le consul. Martin Silenus était en train d'écrire quelques mots sur un bloc-notes. Il se leva pour faire les 100 pas.
Bon Dieu ! Dites-moi un peu de quoi nous avons l'air. Nous ne sommes pas 6 putains de pèlerins, nous sommes toute une armée. Hoyt avec son cruciforme renfermant le fantôme du père Duret, notre ergue semi-sentient dans sa caisse là-bas, le colonel Cassade avec sa moneta qui lui hante le souvenir, H. Brown ici présente qui, à en croire son récit, portrait non seulement un enfant mais un poète romantique mort depuis une éternité, notre érudit avec son bébé qui rajeunit chaque jour, le consul avec ses mystérieux foutus bagages, et même moi avec ma muse. Tout ça pour accomplir un pèlerinage insensé. Et nous n'avons même pas eu droit à un tarif de groupe.
Asseyez-vous et taisez-vous,
fit Lamia d'une voix dépourvue de toute intonation.
Non, il a raison, déclara le père Hoyt. Même la présence du père Duret dans le cruciforme doit affecter, d'une manière ou d'une autre, cette superstition du nombre premier. À mon avis, si nous prenons la route demain matin avec la conviction que...
Regardez !
S'écria Brown Lamia en désignant la porte-fenêtre du balcon où le crépuscule était troué par de puissants éclairs. Le groupe s'avança dans la brise fraîche du soir. Il fallait se protéger les yeux devant les successions d'explosions silencieuses qui ébranlaient le ciel. Les éclairs de fusion d'un blanc bleuté formaient des ondes visibles comme sur une mare de lapis-lazuli. Des implosions de plasma plus petites et plus intenses, dans le bleu, le jaune et le rouge vif, se rétractaient comme des corolles de fleurs en train de se replier pour affronter la nuit. Les clapes formaient un balai de lumière géante. Des faisceaux du diamètre d'une petite planète découpaient leurs rubans sur des années-lumière, déformés au passage par les vagues de fond des singularités défensives. Les aurores boréales des champs de défense se déchiraient et mouraient sous l'assaut d'énergie terrible pour se reconstituer quelques nanosecondes plus tard. Et parmi tout cela, les traînes de fusion bleu et blanc des vaisseaux torches et des grands bâtiments de guerre traçaient leur trajectoire parfaitement rectiligne comme des rayures de diamants sur du vert bleuté.
« Les extros !»
fit Brown Lamia.
« La guerre a commencé !»
murmura Cassade. Il n'y avait dans sa voix ni excitation ni émotion d'aucune sorte. Le consul s'aperçut, confus, que des larmes étaient en train de rouler sur sa joue. Il détourna son visage.
« Sommes-nous en danger ici ?»
demanda Martin Silenus. Il s'était mis à l'abri de la voûte de pierre de la porte-fenêtre et plissait les yeux en direction du spectacle de lumière.
« Pas à cette distance, » fit Cassade.
Il porta à ses yeux ses jumelles de combat, fit un réglage et consulta son persoc.
« La plupart des engagements ont lieu à 3 UA de nous au moins, » dit-il. « Je pense que les extros veulent tester les défenses spatiales de la force. Mais ce n'est qu'un commencement, »
ajouta-t-il en abaissant les jumelles.
« Est-ce que le système d'Istrance fonctionne ?» demanda Brown Lamia. « L'évacuation de Kitts et des autres villes a-t-elle commencé ?»
Cassade secoua la tête.
« Je ne le pense pas. C'est encore trop tôt. La flotte se cantonnera dans une action défensive jusqu'à ce que la sphère 6 lunaire soit occupée.
Les portails d'évacuation seront alors ouverts sur le Retz, tandis que les unités de la force pénétreront par centaines.
« Ce sera un sacré spectacle, »
conclut-il en levant de nouveau ses jumelles.
« Regardez !»
C'était le père Hoyt qui pointait l'index, cette fois-ci non pas en direction des feux d'artifice qui illuminaient le ciel, mais vers les dunes basses des marais situées au nord. À plusieurs kilomètres, dans la direction des tombeaux invisibles, une silhouette à peine visible projetait des ombres multiples sous le ciel fracturé. Cassade ajusta ses jumelles pour l'observer.
« Le Gritch ?»
demanda Lamia.
« Je ne crois pas. J'ai l'impression, d'après ses vêtements, qu'il s'agit plutôt d'un templier.
« Et Mastine ?»
s'exclama le père Hoyt. Cassade haussa les épaules et passa les jumelles aux autres. Le consul se rapprocha du groupe et s'accouda sur la balustrade du balcon. Il n'y avait aucun bruit à l'exception du vent, mais cela rendait les formidables explosions dans le ciel encore plus inquiétantes. Le consul porta les jumelles à ses yeux lorsque ce fut son tour. La silhouette était de haute taille et vêtue en effet d'une robe de templier. Elle tournait le dos à la forteresse et semblait traverser les sables vermillons d'un pas décidé.
« Est-ce qu'il vient vers nous ou se dirige-t-il vers les tombeaux ?»
demanda Lamia. « Vers les tombeaux, » répondit le consul. Penché sur la balustrade, le père Hoyt leva son visage hagard vers les cieux qui explosaient.
« Si c'est bien Mastine, cela signifie que nous sommes de nouveau sept, »
dit-il.
« Il y sera plusieurs heures avant nous, » fit remarquer le consul. « Il aura même une demi-journée d'avance si nous passons la nuit ici, comme prévu. »
Hoyt haussa les épaules.
« Cela n'a pas beaucoup d'importance. Nous sommes partis à sept, nous arriverons à sept. C'est la seule chose qui compte pour le Gritch. »
« Si toutefois il s'agit bien de Mastine, »
souligna le colonel Cassade,
« à quoi rimait alors toute cette mise en scène à bord du chariot avant ? Et comment a-t-il fait pour arriver ici avant nous ? Il n'y avait aucune autre cabine de téléphérique en marche et il n'a pas pu franchir la chaîne bridée par l'école. »
« Nous lui poserons la question demain matin, en arrivant au tombeau, »
fit le père Hoyt d'une voix lasse. Brand Lamia essayait depuis un bon moment d'accrocher quelqu'un sur les fréquences générales de son persoc. Mais elle n'obtenait rien d'autre que de la friture et les échos assourdis d'impulsions EM lointaines. Elle se tourna vers le colonel Cassade.
« Quand vont-ils commencer à bombarder ?»«
Je ne sais pas. Cela dépend essentiellement des défenses mises en place par la force et de la puissance de sa flotte. »
« Ces défenses n'ont pas été très efficaces l'autre jour, quand les extros ont détruit l'Yggdrasil, »
fit observer Lamia. Cassade hocha la tête.
« Hé !»
s'écria Martin Silenus.
« Ne me dites pas que nous avons le cul posé sur un putain d'objectif militaire !»«
Qu'est-ce que vous croyez ?»
lui dit le consul.
« Si les extros lancent une attaque sur Hyperion pour empêcher l'ouverture des tombeaux, comme le laisse prévoir le récit de H. Lamia, toute cette zone constituera un objectif primaire. » « Pour des armes nucléaires ?»
demanda Silenus d'une voix tendue.
« Il y a toutes les chances, oui, » lui répondit Cassade.
« Mais je croyais qu'il y avait quelque chose dans les champs anentropiques qui empêchait les vaisseaux de s'approcher de ce secteur. »
murmura le père Hoyt.
Les vaisseaux habités seulement,
répliqua le consul sans tourner la tête vers le reste du groupe.
Les champs anentropiques n'arrêteront certainement pas les missiles guidés, ni les claps, ni les bombes autoguidées. Je ne crois pas non plus qu'ils gêneront l'infanterie mécanisée. Les extros seront même en mesure de faire descendre quelques glisseurs d'assaut ou bien des blindés automatiques. Ils auront tout le loisir d'observer les opérations à distance lorsque la destruction de la vallée commencera.
« Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent !»
objecta Brand Lamia.
« Ils cherchent à s'emparer d'Hyperion et non pas à détruire cette planète. »«
Je ne jouerai pas ma vie là-dessus, »
lui dit Cassade. Elle sourit.
« C'est pourtant bien ce que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas, colonel ?»
Au-dessus d'eux, une étincelle se sépara du bouquet continu d'explosions, grossit jusqu'à la taille d'un brandon orange et poursuivit sa trajectoire comme une comète à travers le ciel. Du balcon, le groupe aperçut distinctement les flammes et entendit la plainte de l'atmosphère déchirée. Puis la boule de feu disparut derrière les montagnes. Un peu moins d'une minute plus tard, le consul s'aperçut qu'il était en train de retenir sa respiration, les mains crispées sur la balustrade. Il laissa sortir bruyamment l'air de ses poumons. Les autres aussi semblaient avoir retenu leur souffle. Il n'y avait pas eu d'explosion ni d'onde de choc se propageant à travers la roche.
« Un tir manqué ?»
demanda Hoyt.
« Plutôt un appareil endommagé de la force qui essayait d'atteindre le périmètre orbital ou de se poser sur le port spatial de Kitts, »
fit le colonel Cassade.
« Il n'y a pas réussi, n'est-ce pas ?»
demanda Lamia. Cassade ne répondit pas. Martin Silenus reprit les jumelles et fouilla la plaine de plus en plus obscure à la recherche du Templier.
« Je ne le vois plus, »
dit-il.
« Ce brave commandant est maintenant de l'autre côté de la colline que voilà, à moins qu'il n'ait encore utilisé ses talents de magicien pour disparaître comme la dernière fois. »«
Dommage que nous ne puissions entendre son récit, »
dit le père Hoyt avant de se tourner vers le consul.
« Mais nous serons le vôtre, n'est-ce pas ?»
Le consul essuya ses mains moites sur les jambes de son pantalon. Son cœur battait à une vitesse accélérée.
« Oui, » dit-il, « je vous raconterai mon histoire. »
Il avait parlé avant même de savoir consciemment qu'il avait pris sa décision. Le vent rugissait sur les pentes des montagnes exposées à l'est et sifflait le long des escarpements de la forteresse de Chronos. Les explosions dans le ciel semblaient avoir diminué légèrement en nombre, mais l'obscurité tombante rendait les éclairs de plus en plus intenses.
« Rentrons !»
proposa Lamia d'une voix que le vent couvrait presque.
« Il commence à faire froid. »
Ils avaient éteint l'unique lampe et l'intérieur de la pièce n'était plus éclairé que par les pulsations multicolores qui descendaient du ciel. Les ombres surgissaient, se défaisaient et se refaisaient au gré des tirs de barrage. Quelquefois, l'obscurité durait plusieurs secondes. Le consul se pencha sur son sac de voyage et en sortit un étrange objet qui ressemblait à un persoc, mais en plus volumineux, avec des enjolivures bizarres. Il déploya une sorte de disque à cristaux liquides qui faisait penser à certains holofilms d'époque.
« Un mégatrans ultra secret ?»
demanda sarcastiquement Lamia. Le sourire du consul était totalement dépourvu d'humour.
« C'est un persoc antique, » dit-il. « Il remonte à l'égir. »
Il sortit une micro-disquette standard d'une pochette passée à sa ceinture et l'inséra dans la fente du persoc.
« Tout comme le père Hoyt, » annonça-t-il, « il est indispensable que je vous fasse entendre le témoignage de quelqu'un d'autre avant de vous faire part du bien. »
« Jésus à béquille !»
s'exclama Martin Silenus.
« Il n'y a que moi dans cette putain de bande qui suis capable de raconter ma propre histoire. Combien de temps faut-il que nous supportions ?»
Le consul lui-même fut surpris de sa réaction. Il se leva, saisit le petit homme par sa cape et par le col de sa chemise, le projeta contre le mur, le renversa sur une caisse avec un genou au milieu du bas-ventre et l'avant-bras en travers de la gorge.
« Encore un mot, poète » souffla-t-il. « Et c'est moi qui vous tue !»
Silenus chercha à se débattre, mais la pression sur sa gorge ainsi que le regard du consul le firent renoncer. Il devint blême. Le colonel Kassad, sans se presser et sans faire de bruit, les sépara.
« Il n'y aura plus d'interruption, »
promit-il en touchant le bâton de la mort passé à sa ceinture. Martin Silenus recula jusqu'au dernier rang du groupe en se massant la gorge et se laissa tomber sans un mot sur une malle. Le consul marcha jusqu'à la porte-fenêtre, respira à fond à plusieurs reprises, puis revint vers le groupe.
« Excusez-moi, »
dit-il en s'adressant à tout le monde, à l'exception du poète.
« Je ne m'attendais pas à partager un jour cette expérience avec d'autres. »
La lumière de l'extérieur vira au rouge, puis au blanc. Un éclat bleu suivit, qui fit progressivement place à une obscurité presque totale.
« Nous comprenons ce que vous ressentez, » lui dit Lamia. « Nous avons presque tous été dans le même cas. »
Le consul se toucha la lèvre inférieure, hocha la tête, s'éclaircit rapidement la voix et s'assit près de son persoc.
« L'enregistrement n'est pas aussi ancien que l'instrument, » murmura-t-il. « Il date d'une cinquantaine d'années standard. J'aurai autre chose à dire quand vous l'aurez entendu. »
Il marqua un temps d'arrêt, comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais secoua la tête et appuya sur une touche de l'antique appareil. Il n'y avait pas d'image. La voix était celle d'un jeune homme. À l'arrière-plan, on entendait le vent qui soufflait à travers des branches ou des hautes herbes. Plus distant encore, le bruit régulier du ressac ponctuait le récit, tandis qu'au dehors, les éclairs fantasmagoriques suivaient le rythme insensé d'une lointaine bataille spatiale. À un moment, le consul se raidit, sûr que l'impact allait être tout proche. Mais rien ne se passa et il continua d'écouter avec les autres.